La campagne d'ensuite, en l'année 1709, au mois d'avril, les galères armèrent. Le comique fit la classe de ses forçats, chacun dans leur banc. Il y a 6 forçats à chaque rame. Le plus fort et vigoureux est toujours vogue avant, c'est-à-dire le premier de la rame et qui a le plus de peine. Celui-là est de classe première. Le second de la rame est de la classe deuxième, et ainsi, du reste, jusqu'à la classe sixième. Ce dernier n'a presque pas de peine. Aussi y mettons le plus chétif et malingre du banc. Or, il faut savoir que lorsque je fus blessé, j'étais de la première classe, et le comite, soit par mégarde ou autrement, m'avait laissé sur son rôle à cette classe que je ne pouvais remplir, à cause de la faiblesse de mon bras, étant presque estropié et ne pouvant porter la main à ma bouche. Je me mis donc de moi-même à la sixième classe, m'attendant bien de passer par l'épreuve. Cette épreuve est terrible, car à la première sortie qu'on fait en mer, le comite, pour voir si on ne fait pas l'estropié exprès, et à dessein de s'exempter du fort travail de la rame, accable de coups de corde un malheureux qui est dans cet état jusqu'à le laisser pour mort. Il arriva donc que nous sortîmes du port pour la première fois de cette année. Et après que le comite, qui se tient toujours sur le devant de la galère jusqu'à ce qu'on soit à la grande rade, eut fait sortir la galère, il fit visite de chaque banc pour voir si la vogue était bien classée. Il tenait une grosse corde à la main, rossant indifféremment ce qui ne voguait pas bien à sa fantaisie. J'étais au sixième banc de l'arrière de la galère, et comme il avait commencé sa revue à la proue et qu'il s'était animé à frapper avant qu'il fût à mon banc, je m'attendais, avec la plus grande angoisse du monde, qu'il me traiterait impitoyablement. Il arrive enfin devant notre banc, et s'arrêtant, il ordonna d'un air féroce au vogue avant de cesser de ramer. Ensuite, m'adressant la parole, « Chien de huguenot, me dit-il, viens ici. » Je tirai ma chaîne pour m'approcher du coursier où il était, le cœur serré de crainte, et croyant fermement qu'il ne me laissait approcher de lui que pour être à portée de me mieux étriller. Je m'approchai donc de lui, mon bonnet à la main, en posture de suppliant. « Qui t'a ordonné, me dit-il, de ramer ?» Je lui répondis qu'étant estropié comme il pouvait le voir à mes cicatrices, car j'étais tout nu jusqu'à la ceinture comme on est à la rame, et que ne pouvant m'aider que d'un bras, je l'employais de mon mieux à aider mes camarades du banc. « Ce n'est pas ce que je te demande, répliqua-t-il. Je te demande qui t'a ordonné de ramer. Mon devoir, lui dis-je. Et moi, dit-il, je ne prétends pas que tu rames, ni qui que ce soit ne m'assure en pareil cas. La chiourme est le corps des galériens. Car, continua-t-il, si on ne délivre pas ceux qui auraient été blessés dans un combat comme c'est la loi, je ne souffrirai pas du moins qu'ils rament. » Notez qu'il disait cela afin que les autres forçats l'approuvassent et qu'on ne crût pas qu'il favorisa les réformés. Après avoir tenu ce discours que j'écoutais comme si un ange du ciel m'apparaissait, tant j'étais ravie d'aise, il appela l'argousin et lui dit « Déchaîne ce chien de gif. Gif veut dire au provençal un homme incapable d'aucun travail. Et mets-le au paillot. » Le paillot est la chambre aux vivres dans le fond de cale. L'argousin me déchaîna donc de ce banc fatal où j'avais tant sué pendant 7 années et me fit descendre au paillot. Le mousse du paillot, qui était un forçat avec lequel j'avais déjà contracté amitié depuis 2 ou 3 ans, quoiqu'il fût papiste, était un jeune homme d'environ 23 à 24 ans, joli garçon, fils d'un bon gentilhomme de la province du Limousin, et qui était aux galères plutôt pour un trait de jeunesse que pour crime odieux. Il se nommait Goujon. Lorsque le pauvre Goujon me vit introduit au paillot, il sauta à mon cou. « Mon cher ami, me dit-il, est-ce bien vrai que nous ajouterons au titre d'ami celui de camarade ?» Nous nous le félicitions l'un l'autre pendant que la galère voguait sans l'aide de nos bras. Et comme nous avions tout le temps de nous entretenir, il me fit son histoire que je ne savais qu'imparfaitement et que je donnerai bientôt au lecteur. Elle était assez curieuse pour mériter de trouver place dans ses mémoires. Je reviens à mon sujet. Les galères furent ce jour-là et la nuit suivante faire une course dans la Manche. Après quoi, elles revinrent à la rade de Dunkerque. D'abord que nous y eûmes mouillé l'ancre et tendu la tente, le comite, assis sur la table de son banc, me fit appeler. Je fus à lui. « Vous avez vu, me dit-il, ce que j'ai fait pour votre soulagement. Je suis ravi d'avoir trouvé cette occasion pour vous témoigner combien je vous considère et tous ceux de votre religion. Car vous n'avez fait mal à personne, et je considère que, si votre religion vous dame, vous serez assez puni dans l'autre monde. » Je le remerciai de mon mieux des bontés qu'il me témoignait. Il continua ainsi. Je suis assez embarrassé comment je me comporterai dans cette affaire pour n'avoir pas ado l'aumônier, qui ne souffrira pas impunément que je favorise un huguenot. Je pense cependant à un moyen qui réussira, j'espère, continua-t-il. L'écrivain de Monsieur de Langeron, notre commandant, est mort. Il est en peine d'en avoir un autre. Je m'en vais lui proposer de vous prendre, et je le ferai d'une manière que je suis persuadé qu'il le fera. Vous serez par là non seulement exempt du travail, mais même respecté d'un chacun, et moi, à l'abri de la censure de l'aumônier. Allez-vous-en, me dit-il au paillot, on vous fera bientôt appeler. Ce que je fis. Le comique fut sur le champ parler à Monsieur de Langeron. Il lui exagéra qu'il y avait un homme dans le 6e banc qu'il aimerait mieux y avoir un mouton, que ce forçat se disait estropié d'un bras, et que lui qui parlait l'avait fait passer par l'épreuve à force de coups de corde, mais que n'en pouvant rien tirer, il l'avait fait ôter du banc, à cause qu'il embarrassait et empêchait ses camarades de voguer. Là-dessus, M. de Langeron lui demanda par quel sort j'avais été estropié. « Par les blessures, répondit le comique, qu'il a reçues à la prise du Rossignol devant la Tamise. » Et d'où vient, dit le commandant, qu'il n'a pas été délivré comme les autres? C'est, dit le comique, qu'il est huguenot. Vous noterez que c'est la loi de délivrer ceux qui sont blessés dans un combat, pour quel crime qu'ils aient été mis aux galères, excepté les réformés. Mais, ajouta le comique, ce garçon sait écrire et se comporte très bien. Et je crois, puisqu'il vous manque un écrivain, qu'il serait votre fée. Qu'on l'appelle, dit le commandant. On m'appela sur le champ. D'abord qu'il me vit, il me demanda si je n'étais pas ami de M. Piécourt. Je lui dis que oui. « Eh bien, vous serez mon écrivain, dit-il, qu'on le mette au paillot et que personne n'ait rien à lui commander que moi. » Me voilà donc installé écrivain du commandant. Je savais qu'il aimait la propreté. Je me fis faire un petit habit rouge, un forçat doit porter cette couleur. Je me fis faire du linge un peu fin. J'eus la permission de laisser croître mes cheveux. J'achetai un bonnet d'écarlate, et ainsi décrassé et assez propre, je me présentai au commandant qui fut charmé de me voir dans cet équipage que j'avais fait à mes dépens. Il ordonna à son maître d'hôtel qu'on me portât à chaque repas un plat de sa table et une bouteille de vin par jour, ce qu'on fit tous les jours pendant la campagne de 1709. Et je puis dire qu'il ne me manquait rien que la liberté. J'étais sans chaîne, nuit et jour, ayant seulement un anneau au pied. J'étais bien couché et en repos, pendant que tout le monde était au travail de la navigation. J'étais bien nourri, honoré et respecté des officiers de l'équipage, et par-dessus tout, aimé et chéri du commandant et du major des six galères, son neveu, de qui j'étais secrétaire. J'avais, dans la vérité, dans certains temps, beaucoup à écrire, et j'y étais si exact que j'y passais les nuits entières pour rendre mes écritures plus tôt même que le commandant ne s'y attendait. Voilà l'état heureux où je me trouvais jusqu'à l'année 1712, qu'il plut à Dieu de me remettre dans une épreuve, grande d'elle-même, et d'autant plus amère que presque 4 années de bon temps m'avaient accoutumé au bien-être. Je ne dirai rien ici des années 1710, 1711 et la plus grande partie de 1712, que les galères restèrent désarmées dans le port de Dunkerque, la France étant si dénuée de tout dans sa marine qu'on ne pouvait armer une chaloupe. Si bien que nous n'eûmes aucun événement extraordinaire et digne de curiosité, jusqu'au mois d'octobre 1712, que nos grandes tribulations et celles de notre société souffrante arrivèrent. Mais avant que d'y venir, j'ai promis l'histoire de Goujon, je m'en acquitte.